bonjour et bienvenue à épisode 103 de Pacte Pot. Nous allons continuer dans notre série recap de Coupe du Monde 2019 avec en fait que notre cher Charlie Bayer a préparé. Moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Donc, je profite en ce moment pour dire bonjour à toi, mon cher Charlie, le seul de notre pack qui joue toujours. D'ailleurs, tu n'as pas un petit transfert à quelque chose à nous annoncer?
qui joue toujours, qui est présent sur les terrains en tout cas. À dire s'il joue, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut m'appeler la girouette parce que après d'avoir quitté le massif pour la CBB et la CBB pour le massif, je retourne à la CBB en quittant le massif l'année prochaine. Donc je retourne ma veste, mais toujours du bon côté.
Bah écoute, je te souhaite une très bonne saison et je pense que d'ici très peu tu vas commencer à faire des sprints hein, sur les terrains, donc je pense bien fort à toi en août. La semaine dernière on est remonté dans le DeLorean de Back to the Future hein, avec Marty and the Doctor pour retourner à la Coupe du Monde en Japon en 2019. On a vécu tous les matchs de l'équipe de France qui a fini malheureusement avec un défait contre Pays de Galles. Qu'est-ce que tu nous as préparé là, mon cher Charlie?
Eh ben, après avoir suivi le parcours de l'équipe de France et le début des phases finales, en l'occurrence juste un quart de finale qui nous a rendu un peu triste, mais qui était un beau quart de finale d'équipe de France quand même, on est allé replonger dans les phases finales. À partir de demi-finale, en fait, il y avait eu le fameux Angleterre-Nouvelle-Zélande et en face un Pays de Galles-Afrique du Sud moins épique. Hein, clairement moins épique, on peut le dire comme ça.
Mais très proche quand même, très proche.
Très proche, oui, mais moins. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas les Galactiques comme on a pu faire. Je ne ferai pas référence au match Pays de Galles Afrique du Sud comme je fais référence au match Angleterre Nouvelle-Zélande dans mes discussions de soirée. Mais voilà, qui nous a amené à une finale flamboyante de Angleterre contre l'Afrique du Sud où ça a été un combat de titans, un peu moins relevé, un peu moins de jeu, mais beaucoup d'envie, beaucoup de guerre, une guerre réussie par nos amis sud-africains.
Ouais, et c'est là, je connaissais pas du tout vraiment cette équipe de Sudaf à ce moment-là. Et en fait, on va les revoir beaucoup, je trouve. Il y a beaucoup de qui reviennent de cette année aussi. Donc les champions en titre des Sudaf. Donc c'est intéressant de revenir sur ce match. Il y a que 4 ans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être sur le terrain cette Coupe du Monde-là. Donc merci, mon cher Charlie, pour tout ce travail que t'as fait de Edith.
Mais de rien, c'était une vraie joie en fait de replonger dans cette aventure de Coupe du Monde, de se souvenir de ce qui s'était passé il y a 4 ans, parce que l'équipe de France a beaucoup évolué et le rugby mondial aussi. Et c'était aussi très agréable de replonger dans notre aventure à nous, quoi, dans l'enthousiasme et l'innocence qu'on avait et qu'on a toujours d'ailleurs. Mais c'était un vrai plaisir et je suis très content de vous faire revivre et de revivre avec vous cette aventure Coupe du Monde 2019 en vue de ce grand choc qui va arriver et qu'on est vraiment impatients.
Allez, tout de suite, c'est Nouvelle-Zélande contre Angleterre en 2019. Mais n'oubliez pas, nos chers écouteurs, de cliquer les likes et cliquer les abonnés pour tous les épisodes qui vont venir dans cette année pour ce Coupe du Monde. On a 15-16 épisodes qui vont venir une par semaine environ jusqu'à fin octobre. Et en plus, j'ai un petit surprise en novembre. Après le Coupe du Monde, j'ai un surprise pour tout le monde. Mais il faut abonner pour être là. Allez, bonne écoute à tout le monde.
Pacte de potes, c'est Radis.
Samedi matin, nous avons eu un match vraiment d'anthologie. C'était un truc de formidable. L'Angleterre contre Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande était tout de suite prêt pour la bataille, mais je trouve que l'Angleterre était vraiment prêt pour la guerre. Ça se montrait tout de suite pendant le haka, par exemple, où l'Angleterre a montré qu'ils étaient vraiment prêts pour recevoir ce défi des Nouveaux-Zélandais. Et quel barrage! Le match démarre avec Tulagi qui marque dans les 90 secondes. Nouvelle-Zélande vraiment sur le recul, surpris. Tulagi aussi fait une interception 6 minutes plus tard, il passe à Johnny May et heureusement c'est la bonne défense d'un certain Scott Barrett qui permet à Nouvelle-Zélande de sauver un essai. On voit l'Angleterre vraiment en maîtrise pendant tout ce premier mi-temps. En 25 minutes, il y a un essai qui était rappelé parce que il y avait un écran. Tout de suite après, la Nouvelle-Zélande qui dans le 22 des Anglais, mais sans prendre des points. L'Angleterre, il ne reculait pas. Il avançait sur chaque contact. Il gagnait en mêlée, il gagnait des touches. Le 4 anglais, Itoje, il était vraiment formidable. Et on voyait après lui en tant que l'homme de match. Le défense anglaise, ils n'étaient pas là dans la pression comme l'Afrique du Sud était contre Nouvelle-Zélande. Ils étaient dans l'attente. Ils attendait, il forçait les décisions des nouveaux Hollandais, et il plaquait pas à un, pas à deux, mais plutôt parfois à trois. On voyait 10-0 pour l'Angleterre, le mi-temps. Je sais pas où vous étiez, les gars, pour regarder ce match, mais moi, dans le petit bar où j'étais, on était tous un peu surpris.
Alors, oui, alors, où j'étais, moi, je te rappelle que je fêtais mes 33 ans, donc c'était un peu compliqué.
Donc tu t'en rappelles plus très
donc,
bien.
J'ai eu du mal, mais non. En tout cas, ça, ouais, c'était vraiment le choc des titans. On l'avait annoncé, même ceux qui connaissaient rien au rugby, ils savaient très bien que le samedi matin, et d'ailleurs, tu les avais prévenus, il fallait qu'ils soient devant leur télé. C'est quand même deux équipes qui sont à 80% de victoire, hein, à peu près, ces quatre dernières années. C'est deux équipes assez violentes. Bon, déjà, sur le AK, on était, Farrell, que j'en ai parlé un peu avant dans ce podcast, que j'aime détester. Il m'a fait frémir, quoi, son petit sourire du type qui va manger son petit déj. Mais c'est le mec en face de lui, il y a des guerriers, et lui, ça le fait marrer, quoi. Il dit, je vais me marrer la gueule, les gars, vous savez pas ce que je vais vous envoyer. Et en effet, je pense qu'ils étaient pas prêts, hein, les Néo-Zélandais. Mais tu as cité Maro Itoje. C'est vrai, bon, il a été énorme, j'ai pas assez de superlatif, hein, on va me dire que je parle que des deuxièmes lignes encore, mais je pense que le fait qu'il a été homme du match, le fait qu'on parle que de lui, ça fait un peu oublier aussi la prestation de Courtney Love, qui a été, en fait, ils avaient un attelage mais d'assassins. Faut pas oublier qu'en face, quand même, Retallick, Whitelock, c'est des mecs, c'était la 54e ou 55e fois, qu'ils jouaient ensemble. Ils avaient quand même des beaux animaux en face. Et les gars, mais ils se sont, mais alors, dès le premier ruck, Maro Itoje, il a consommé trois défenseurs, quoi. Et je pense que les Néo-Zélandais, ils ont été complètement désarçonnés. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que dès la quatrième minute, t'as George Ford qui va piquer un ballon, qui arrache un ballon au pilier adverse, quoi. Donc t'as le trois quarts qui va t'arracher le ballon du près d'un animal. Ça en disait long, quand même, sur l'envie qu'ont montré les Anglais dans cette première mi-temps, déjà.
Ils ont fait une entame hallucinante.
Royale.
Et pourtant, comme tu l'as très justement dit, Thierry, Barrett qui reprend les liés, mais il reprend pas n'importe qui, Scott Barrett, il reprend Johnny May, s'il te plaît, qui part avec les cannes. Et moi, je me suis dit, mais là, il y a essai. Et je n'en suis pas revenu qu'il le rattrape. Et s'il le chope pas, il y a 14-0 au bout de deux minutes. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, qu'il n'y ait que 10-0 à la mi-temps, quand tu regardes, si tu oublies la couleur des maillots, c'est pas les blacks. Une telle domination dans l'impact et la domination territoriale et de maîtrise du ballon qui que 10-0 à la mi-temps, c'est une énorme performance défensive des Blacks. Mais clairement, ils se sont fait complètement bouffer dès le début du match. Et en fait, ils ont pris, mais c'est comme un combat de boxe où tu prends un coup au menton sur le premier crochet du mec. Et en fait, tu t'en remets jamais de tout le match. Et même si tu vas au bout et que tu perds au point, parce que ils sont pas si loin que ça, on peut pas dire qu'ils aient pris une raclée, etc. Mais ils ont été KO debout pendant tout le match. Donc, franchement, après, on peut y revenir un petit peu, mais il y a que 7-0 à la 25e, alors qu'ils ont fait que de courir après le score. Et là où les Anglais ont été exceptionnels, c'est contrairement aux Sud-Africains au début des matchs de poule, quand ils ont joué et les 20 premières minutes, ils ont agressé les Néo-Zélandais, mais ils ont pas marqué. Là, ils ont marqué au bout de 84 secondes. Les Néo-Zélandais, j'aimerais savoir depuis quand ils ont pas pris un essai d'entrée comme
ouais,
ça,
ouais, complètement,
en se faisant marcher dessus à ce point-là. Voilà. Parce que là, c'était, je me suis dit, mais ok, j'ai compris, ils ont donné le ton, les mecs. Et en fait, les Néo-Zélandais, on se rend bien compte aussi avec ce match-là que c'est une équipe qui est tellement habituée à dominer et on oublie à quel point ils sont immenses. Et en fait, je trouve que là, ok, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mais ça ne remet rien en cause de leur domination sur les 15 dernières années qui était exceptionnel. Et en fait, là, c'est juste une équipe qui n'est pas habituée à courir après le score et qui ne sait pas batailler quand elle est un peu menée, parce que très souvent, ils marquent une fois, deux fois, quatre fois, ils ont 15-18 points d'avance, et donc ça permet tout, y compris toutes les faiblesses.
Oui. En fait, l'Angleterre, ils ont démarré le deuxième mi-temps exactement de la même façon. Ils étaient déjà dans les 22 des All Blacks tout de suite, avec un bel essai qui était encore annulé car en avant dans un mol. Donc, Théo, j'aimerais bien que tu m'expliques.
Très sévère cette annulation-là.
J'aimerais bien que tu m'expliques ça après, parce que pour moi, c'est du jamais vu. Bon, bref. Après, malgré cette décision, j'ai trouvé que l'Angleterre était quand même très serein et ils ont quand même mis les points, 2-3 points avec une pénalité. Dans la 55 minutes, on voit les All Blacks finalement commencer à mettre un tout petit peu le cage. Il y avait une touche ratée.
C'est un raté des Anglais, quoi. C'est un raté des Anglais. C'est même pas.
C'est le seul erreur qu'ils ont fait. Et bouffe, ça va intercept et essai pour Nouvelle-Zélande. Pendant deux minutes, on peut dire que tiens, là, il y a un match parce que je pense que c'était 13 à 7. Mais finalement, réaction immédiate des Anglais à notre pénalité, 16 à 7. Et franchement, à 66 minutes, on pourrait dire que ce match est fini avec un autre pénalité 19 à 7. Les Blacks, ils n'arrivaient pas à passer la ligne défensive des Anglais. Ils essaient de mettre un dernier essai de l'honneur et les Anglais, mais ils étaient sans pitié, comme Théo le dit tout souvent. Ils ont dit non, ce match est fini et les All Blacks rentrent à la maison.
On a quand même le sentiment que les Blacks, en fait, n'ont quand même jamais été en mesure de gagner ce match, ce qui est très rare. Hein. Pas de solution. Faut rappeler quand même qu'ils ont un ratio de victoire-défaite, cette équipe qui est extraordinaire. On n'a pas beaucoup parlé d'eux. Et pourquoi est-ce que les All Blacks, tout simplement, ont une domination quand même assez incroyable sur le rugby mondial depuis plus de 100 ans? C'est pas par hasard. Ils ont une histoire très particulière avec ce sport. C'est un tout petit pays du bout du monde qui a créé son identité avec ce sport dans un mélange un petit peu de culture maori qui est une culture de combattants et les British qui sont une culture de la règle et de la dureté d'exécution et d'organisation. Et avec ça, ils ont fait monter une mayonnaise historique, une mayonnaise noire qui écrase ses adversaires depuis très longtemps. Et le rugby en Nouvelle-Zélande, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est pas vraiment un sport, c'est une manière de vivre, c'est presque une religion. D'ailleurs, on voit très bien de temps en temps, médiatiquement, quand il y a un ancien All Black qui meurt, il y a des haka aux enterrements, ça devient carrément des trucs incantatoires qui dépassent complètement le domaine du rugby, c'est une manière d'être. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'ils perdent contre les Anglais, qui sont aussi les inventeurs de ce jeu et qui sont juste au bout d'un projet exceptionnel de 4 ans, mené, on l'a dit, par une sorte de sorcier de ce jeu, etc., mais aussi une génération de folie, c'est honorable. Ils perdent avec leurs armes. Ils ont quelques jeunes joueurs dans cette équipe, beaucoup de jeunes derrière, plutôt des mecs expérimentés et un peu plus vieux devant. Et je pense qu'en fait, là, on a eu la confrontation entre deux équipes qui sont pas au même niveau d'intégration. Et moi, j'ai trouvé que dans cette équipe des All Blacks, il y avait une faiblesse de la morale collective. Je pense que les avants ayant un petit peu failli, parce que Retallick et l'autre deuxième ligne, Whitelock, ont été pris quand même par leur vis-à-vis d'une manière incroyable, alors que c'est des mecs qui ont dominé la planète rugby il y a 3-4 ans. J'ai noté, parce que ça m'a bluffé, à la 64-65e, tu disais 66e, on a l'impression que le match est fini. Twilagi, il prend Retallick, il le découpe. Et la minute d'après, Itoje, il prend Whitelock, il le découpe. Alors que c'est les mecs qui ont mis cette équipe dans le sens de la marche pendant des années. Ben là, c'est juste, les gars, c'est fini. Et derrière, ils sont un peu jeunes.
Juste pour placer rapidement, donc Retallick, c'est le numéro 4, il me semble, en black. Et c'est lui qui ressemble au gars du le Family Adams. Non, le bon.
C'est lui le mort-vivant.
Ouais. OK, juste merci.
C'est tout à fait ça. Et ces deux joueurs-là, voilà, ils ont énormément compté chez les Blacks ces quelques dernières années. Hein. Je crois que c'est Retallick qui a été meilleur joueur du monde en 2016 ou 17, je sais plus, un truc comme ça. Et là, bon, ils ont tout simplement été pris. Et derrière, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le centre du terrain, et en particulier le 10 et les deux centres, ont pas assez pesé sur ce match. Et c'est vrai que les Blacks, sur ces dernières générations, ils avaient quand même un numéro 10 comme Daniel Carter et un 3/4 centre comme Manonou. On les remplace pas comme ça. Je veux dire, là, ils ont une équipe de mecs qui sont en devenir. Le 10 a très peu pesé dans son jeu au pied. Goodyear, il a sauvé un ou deux trucs. Et honnêtement, ce qu'il a eu de plus beau sur ce match, c'est quand même sa coiffure, qui est exceptionnelle. Mais à part ça, moustache et moulette, hein, blonde, exceptionnelle. Enfin, là, on voit la fin des années 70-80 qui revient à la mode sur le plan capillaire et c'est toujours un petit plaisir. Mais blague à part, ils n'ont pas pesé. Donc, parfois, ils ont essayé de chercher des solutions individuelles. T'as Barrett qui fait des coups de pied au-dessus. Et puis, ils ont fait beaucoup d'imprécisions, des en avant sur les renvois. On écarte, paf, le ballon qui tombe. Enfin, je veux dire, c'était pas les Blacks. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'ils se sont fait secouer comme des pruniers par les Anglais.
Ouais, complètement. Je te trouve un peu sévère sur Goodyear, parce que au-delà de ça, moi, j'ai trouvé bon sur ce match.
Au début de match, il a fait un ou deux sauvetages pas mal.
Ouais, il était, on le voyait quand même pas mal, hein, mais c'est quand même continuer un peu dans l'idée de ce que le rugby peut représenter pour eux. Il y a deux pays au monde pour lesquels le rugby c'est le sport numéro un, c'est le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. Sinon, partout ailleurs, c'est le foot qui est prédominant. Et en effet, quand c'est des pays qui tournent autour du rugby, la Nouvelle-Zélande c'est vraiment le pays du rugby. Après, juste, je rebascule vers l'Angleterre où t'as parlé d'un projet de 4 ans où ils sont allés chercher ce fameux sorcier. Pour moi, c'est vraiment un projet de plus longtemps, hein, parce que déjà avec Lancaster, ils avaient amorcé un changement de stratégie et ils ont commencé. Je trouve, même s'ils ont loupé leur Coupe du Monde 2015, ils ont commencé ce revirement vers le jeu, vers tout ça, déjà avec Lancaster. Pour continuer un peu aussi sur ce que tu disais, tu vois, c'est vrai que ce timbre à la 65e là, de I2G sur Whitelock, c'est en fait ce match par rapport à tout ce que tu nous décris un peu de ce qu'est la Nouvelle-Zélande et ce qu'est le rugby pour la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Zélande pour le rugby. C'était un peu, pour moi, hein, quand j'ai vu ce match, c'est un peu putain, c'est des humains, tu vois. C'est un peu Superman peut saigner, tu vois. T'avais un peu ça, quoi.
Et je trouve que ça remet pas en cause ce qu'ils sont d'exceptionnels.
Non, leur valeur, bien sûr que non, mais bien sûr que non, au contraire.
Et on peut perdre quand même.
Mais pour moi, ce timbre, il était assez représentatif parce que pour moi, c'était vraiment genre le mec montre qui c'est Raoul, quoi. Et autour de ça, cette deuxième mi-temps, tu voyais que les Néo-Zélandais ne trouvaient pas de solution, qui perdaient leur duel, qu'il y avait un truc où c'était vraiment pas vraiment une chute, parce qu'en effet, comme tu dis, faut rien enlever à la qualité de ce qu'ils ont, de ce qu'a cette équipe. Mais c'était un peu le putain, ils peuvent saigner aussi, quoi. Ils peuvent retomber.
Bien sûr, c'est important. Et ce qui est étonnant, moi, un des gestes qui m'a le plus rappelé qu'ils étaient en train de perdre les pédales et qu'ils gagneraient pas, c'est la petite claque sur le front que met Whitelock à je sais plus quel joueur où il perd ses moyens. Et là, tu te dis, c'est pas eux, quoi. C'est-à-dire que les Blacks, normalement, ils font jamais d'espèces de petits mauvais gestes comme ça. Ils ont pas besoin de ça, ils te mettent 50 points. Et en fait, bah, ils sont juste humains. Il y a des moments, t'es sur le terrain de rugby. Ceux qui nous écoutent comme vous, les gars, on le sait, à un moment, t'en peux plus. T'as envie d'arroser le mec d'en face parce que, en fait, il est juste meilleur que toi. Et c'est très, très dur à supporter. Et c'est aussi ce qui fait la différence entre les grands joueurs dans un moment clé où ils vont être champions du monde et les autres. Qu'on fait les coups de coude que tu mets au mauvais moment, même si t'es énervé, etc., etc.
Tu vises quelqu'un, peut-être?
Personne.
On a parlé des joueurs, des avants qui ont un certain bouteille, on va dire. Pour moi, Vanni Paulin, le pilier, là, en fait, il ressemble à un nain dans Les Seigneurs des Anneaux. Et je pense que je lui donne 200 ans, quand même. Il pourrait être là, la création de rugby, en Angleterre.
C'est lui qui a inventé le rugby.
C'est exactement ça. Il vit dans la comté. Ouais, il vit dans la comté. Alors après, c'est vrai qu'on a tellement parlé de la déception des Blacks que finalement on n'a pas dit grand chose des Anglais, mais ils ont fait un match extraordinaire. Et moi je l'avais dit, ces deux équipes qui n'ont pas de points faibles, on a surtout vu que l'Angleterre n'avait aucun point faible et ils ont affiché, je trouve, surtout une détermination, une sérénité, une solidarité extraordinaire. Et ceux qui m'ont le plus frappé quand même, c'est les deux troisièmes lignelles qui ont été mais énorme, même si Itoje a été magique. Et Itoje, il a quelque chose d'un, il est presque comme un dessin animé. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, c'était dans le journal aussi. Il a aucune cicatrice, le mec. T'as l'impression que tout est facile. On dirait le mec des Cités d'Or. Tu vois, il est beau, il est mignon. Bah non. Mais c'est quand même un mec qui te fait 12 ou 14 plaquages, 3 turnovers, 7 ou 8 ballons en touche sur le match, demi-finale de Coupe du Monde. C'est monstre. Et t'as l'impression que c'est facile.
Ouais, justement, Maro Itoje, je peux pas vous dire tout ce que je pense de lui parce qu'il m'a tellement impressionné. Il y a cette image, tu sais, à la fin du match où il tombe à genoux, lentement, il enlève son casque, tu vois, il relève. C'est un guerrier.
Un guerrier.
Putain, bref, c'était beau. Mais par rapport à la touche, il y a un truc quand même qui est mentalement, qui est très violent parce que ce mec-là, il était, tous les ballons étaient, j'exagère, mais 90% des ballons étaient envoyés sur lui. L'alignement adverse savait qu'il allait sauter.
Et il prend quand même tout.
Il savait que c'était sur lui et il prend quand même tout. Énorme. C'est ça l'horreur. Mais non, mais en c'est vrai, énorme. C'est horrible. C'est tu vois, t'as les mecs qui se disent ouais, ça va être sur lui. Ouais,
ben c'est sur lui, puis il le prend quand même.
Et t'es pas loin, chaton à chaque fois, mais il le prend quand même. C'est horrible pour l'alignement en face. Il les a dégoûtés. Il m'a.
Et puis les deux troisième lignelles, Curry Underhill. C'est monstrueux.
Mais ils m'ont rendu fou. Mais bien sûr. Mais ils ont mis des timbros.
Bon, on avait quand même un autre match le dimanche, l'Afrique du Sud contre Pays de Galles. Un match, on peut dire, assez lent, avec beaucoup d'envie, mais peu de réalisation. Beaucoup de ballons perdus. Bon, on peut dire qu'il y avait des mêlées impressionnantes des Afriques du Sud. Il y avait des Gallois qui étaient assez confortables dans l'air avec des ballons gagnés comme ça. Mais en gros, je pense que pour le premier mi-temps, la chose qui m'a fait marrer le plus, c'est les poireaux des supporters. Parce que franchement, il y avait pas...
Les poireaux des Japonais dans le stade, c'était
j'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé le premier mi-temps super brouillon. On peut dire presque un gribouillage de match avec un score à mi-temps pour l'Afrique du Sud, 9-6.
L'antithèse de la veille, quoi.
Ouais, et en même temps, alors, moi, j'ai beaucoup entendu ça et tout. J'ai entendu la radio, oui, un match chiant et tout. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est que c'est resté un match disputé jusqu'à la fin. Et à 5 minutes de la fin, il y avait 16 partout. Et je trouve que les Gallois ont pas démérité. Je trouve que Alf Penny, franchement, il est éternel, ce mec. Le mec, le premier ballon haut, il te fait une réception. T'as Chelsea Colby qui est pas là, mais t'as Alf Penny qui fait la même en face. Il m'a fait rêver. Et puis, il met la pénalité pour égaliser à 16 partout, à la 75e, en coin. Excuse-moi, les mecs, c'est quand même des bons joueurs, quoi. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Alors, De Allende a été exceptionnel, le centre sud-af, c'est lui qui marque l'essai, il va vraiment se le chercher tout seul. Les Gallois, pour venir égaliser l'essai, enfin qu'il les fait recoller, ils choisissent, à un moment où ils pourraient avoir une pénalité pour revenir à 4 points, ils choisissent de jouer la mêlée, ils sont récompensés en marquant un essai. Donc honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment de rugby avec beaucoup d'engagement, mais
alors,
un beau match.
Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à la combativité des Gallois. C'est une équipe, et on en avait parlé un peu au début, qui avait moins de bancs que les autres, qui avait moins de turnover. Leur troisième ligne, Navidi, c'est ça, le Dredd là.
Oui, bah, lui il jouait pas. Et puis Norse qui se claque pendant le match.
Il a clairement manqué. Ils sont bien fait cogner quand même. Il y a eu des sorties sur blessure. Je pense que ils ont pas démérité alors qu'ils avaient peut-être pas le même banc que d'autres équipes. En effet, à la fin là, quand ils choisissent la mêlée au lieu de la taper au pied, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont cons quand même ces mecs là. Et en fait, grosse paire parce que aller le marquer derrière, c'était beau. Donc en fait, la première mi-temps était chiante, pardon. Hein, moi, j'étais un peu en mode, voilà, beaucoup de jeux au pied, peu de rythme, tu vois, très fermé. Mais c'est vrai qu'à la fin, en fait, une fois digéré un peu ce contre-pied au match de la veille, hein, où on s'est dit merde, on s'attendait à peut-être deux demi-finales d'anthologie. Il y en a eu une et demie, on va dire. Mais une fois digéré, c'est vrai que je me suis dit putain, quand même, les Gallois, ils donnent des leçons de volonté, quoi, de courage.
Tu sais, moi j'ai un copain qui m'a rappelé là il y a pas longtemps en parlant du match contre les Français qu'ont perdu les Français. On avait quand j'étais jeune junior à la CBB, c'était Nick Mallette qui était l'entraîneur des seniors, hein, qui était à l'époque en Fédéral 1, et il disait mais tu sais casser les couilles de l'adversaire, le faire péter les plombs, ça aussi c'est rugby.
c'est vrai.
Voilà, le rugby, c'est pas un sport spectacle. C'est aussi un sport de clébard. C'est aussi un truc où on est là pour faire dégoupiller les mecs en face, les énerver, leur faire des conneries. S'il faut qu'ils prennent des jaunes parce que t'as, au bout d'un moment, tu leur fais péter le plomb, t'es le plus malin. Ça fait aussi partie du rugby. Et Faf, il est un peu comme
exactement,
ça, notre Faf de Clerc.
Avec le deuxième ligne, là, putain, et j'ai pensé à vous, quoi.
Peut-être c'est pour ça, en fait, que j'étais un peu triste au premier mi-temps, parce qu'en fait, j'avais pas vu le Faf. C'est même dans mes notes, j'étais dit, le Faf, il est où?
C'est un bon match. Hein.
Oui, il a fait un bon match, mais il était moins évident que le match d'avant contre le Japon. Mais par contre, oui, le geste où il fait un boulet, il attrape pas le ballon dans l'air, et bon, après, il fait un super plaquage sur le 9 en face, mais quand il y a le gros numéro 4 avec une jolie barbe qui vient le choper,
oh,
il
là
le
là
prend,
là.
Mais il dit viens, monsieur.
Il doit être tellement énervant. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est un match de chien, c'est un casse-couille, quoi, tu vois. Le deuxième ligne en face, en vrai, il lui met une baffe, il dort pendant 3 semaines, Faf, mais il est là à rigoler pendant que l'autre le prend par le col.
Faire dégoupiller le mec, ça aussi, c'est rugby.
Exactement.
Bon, pour revenir vraiment un peu par rapport au match, donc c'était 9-6 pour le premier mi-temps. Les Gallois marquent 9-9 en deuxième mi-temps. On voit un essai finalement, après un joli percé du 10 Sudaf Polar, il y a un course de 12 qui réussit d'éviter Billard plus deux autres Gallois qui marquent le premier essai du match, donc environ de 53 minutes. Après par les Gallois, ils ont passé 5 minutes dans les 5 mètres face à une défense de Sudaf vraiment très très efficace. On avait parlé de ce choix droit de mêlée, il y avait un pénalité. Au lieu de prendre les 3 points, ils ont pris la mêlée avec un super essai derrière.
Audacieux, c'est audacieux.
Vraiment. 10 minutes plus tard, on a 2 drops ratés de chaque côté, je pense. Finalement, un pénalité qui donne 19-16 pour l'Afrique du Sud. Et je pense que l'image de ce match aussi, c'est que dans le mêlée gagné par les Afriques du Sud, vraiment la dernière minute, on voit tout le puissance de cette équipe et l'euphorie après.
L'euphorie entre les mecs, ouais. C'est aussi ce qui faut jamais l'oublier, hein, ce qui fait de ce sport un sport un peu à part. C'est pour ça qu'on aime bien aussi les gars. C'est vraiment la communauté, la fraternité d'armes. On voit très bien cette mêlée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient sur le banc, qui étaient rentrés, et là ils font basculer finalement un match encore très indécis, hein, 16 partout juste avant, sur une mêlée comme ça. Et là, quand tu joues devant, c'est des sensations extraordinaires, c'est en fait t'as vraiment des frissons, y compris quand tu n'es pas dans la mêlée, mais les mecs de derrière, ils ont aussi envie de leur sauter dans les bras. Et c'est cette dimension collective-là sur un petit combat gagné qui te fait basculer, qui est fantastique et qui donne vraiment, c'est vrai, je trouve, la chair de poule, même quand t'es devant la télé, quoi. Enfin, tu te mets à la place des mecs et tu te dis, mais oui, quoi, ils l'ont fait, c'est beau, quoi.
J'ai aussi noté que Ellie Jones était à ce match-là. Et en fait, c'est la deuxième fois que je vois ça. Il porte un casquette de foot américain, en fait. Il a de Houston Texans. Et je trouvais ça assez bizarre que c'est déjà Houston Texans, c'est pas une grande équipe de foot américain non plus dans la NFL. C'est pas c'est pas des 49ers, c'est pas une équipe avec beaucoup d'histoire, c'est une équipe qui est assez jeune, en fait. Ouais, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je me demande quel est le lien entre Ellie Jones et Houston Texans, quoi.
Réponse dans la saison 2 de Pack de Potes.
Voilà. En bas du suspense.
Une chose, c'est sûr, je pense qu'on va avoir des gens qui vont se pousser les uns les autres ce vendredi, en fait, parce qu'on a Nouvelle-Zélande, Pays de Galles. Et franchement, si c'était moi, j'aurais pas envie d'être le Pays de Galles.
Oh là là, mais la vengeance. Mais non, mais les All Blacks, ils vont être énervés, mais malheureux. Non, je pense que pour les Gallois, ça va être compliqué. Hein, ça va être un peu dur. Surtout qu'encore une fois, on en reparle, ils ont moins de bancs que les autres. Ils ont moins tourné que les autres. Ils ont perdu des mecs là contre l'Afrique du Sud. Je pense que des All Blacks énervés en face.
Après, c'est des matchs de fête, hein. Je pense que et on l'a dit, c'est des équipes qui ont des points communs. Je pense qu'il y a énormément de respect entre ces deux équipes. Donc moi, j'ai bon espoir que ce soit un match, enlevé, où on verra du jeu, où on verra des choses et où on verra surtout une fête du rugby avec des mecs à la fin qui vont célébrer leur amour de ce jeu. Je pense qu'on a vu beaucoup de belles choses sur cette Coupe du Monde et une affiche comme celle-là, qui est une affiche festive malgré tout, parce qu'il y a troisième ou quatrième, tu t'en fous un peu sur une Coupe du Monde, en fait, honnêtement, voilà.
Tu les retiens pas.
Tu les retiens pas et il y a pas d'enjeu. L'enjeu est très faible. Moi, je pense que ça va être un beau match. C'est de toute façon une belle affiche. Voilà, c'est deux magnifiques équipes. Elles sont tombées. Je dirais que les Blacks sont vraiment tombés sur plus fort qu'eux. Ils sont passés un petit peu à côté de leur demi-finale. Les Gallois, c'est pas le cas. Ils sont tombés les armes à la main. Ils perdent de 3 points. Honnêtement, il y a absolument rien à dire. Donc moi, je pense que ça va être très sympa et j'espère que les Blacks auront la décence de pas mettre 50 points au Gallois.
Soyez classe, les mecs, un peu. Soyez classe.
Ouais, mais je pense que comme on a déjà dit, on peut pas trop compter sur ça parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Sinon, samedi, ça va être notre finale depuis, ça fait un certain moment maintenant qu'on regarde ce Coupe du Monde. Et je suis un tout petit peu triste que ça se finit. Au moins, ça finit avec vraiment une très belle affiche. L'Angleterre contre l'Afrique du Sud à 10h samedi matin.
Oui, ça va être une belle affiche. Après, clairement, de ce qu'on a vu depuis les poules, jusqu'à cette demi-finale. Oh, je pense que malgré mon faible ratio en pronostic, je pense que ça va être dur pour les Sudaf. Hein. Je pense que les Anglais, ils sont...
C'était une des affiches possibles, hein, de la finale. C'était un des scénarios, on va dire attendus. En tout cas, soit Angleterre, soit Nouvelle-Zélande. Mais on savait que l'Afrique du Sud était une des favoris de cette partie de tableau. Quand même rappeler que s'ils se sont retrouvés dans cette partie de tableau, c'est parce qu'ils ont perdu contre les All Blacks, les Néo-Zélandais, pendant le match de poule. Hein.
Ouais,
donc ils se retrouvent en finale alors que les autres sont sortis en demi, mais à la régulière l'un contre l'autre, c'est les Blacks qui ont gagné sur cette Coupe du Monde. Attention, ça reste un match de rugby et on voit bien que les Sudaf, on les voyait quand même assez fortement favoris contre les Gallois, c'est quand même pas passé loin. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce qu'ont montré les Anglais, ils sont clairement devant. Je serais content aussi parce que j'aimerais que ce trophée Webb Ellis revienne dans l'hémisphère nord. Et là-dessus, les Anglais, je leur tire mon chapeau. Ils l'ont gagné en 2003. S'ils le gagnent ici, on est content que ce soit au nord. Pour la promotion du rugby mondial, c'est bien aussi que ce ne soit pas toujours les mêmes équipes qui gagnent. C'est très important. Mais attention, c'est un match, 80 minutes, 15 plus 7, 22 mecs contre 22 mecs. Ça peut basculer de l'autre côté.
Premier match pour ce petit final, c'était vendredi matin. Après un Halloween bien sympa avec les enfants, un peu de bonbons le matin, c'était pas mal. Il y avait quand même un sacré match hein, et ça se voyait tout de suite. Nous avons eu Nouvelle-Zélande contre Pays de Galles et ça se sentait tout de suite. Il y avait un sentiment que ça allait jouer. Il y avait un essai dans les premières 5 minutes. Petit passe après contact, très très sympa par Ritalik, le mort-vivant. Ensuite, il y avait un petit côté de Nouvelle-Zélande qui a gagné 50 mètres, avec suivi par un bel essai de Bowden Barrett avec une croisée assez formidable. Pays de Galles, par contre, qui reste toujours dans le match. Il y a un essai de numéro 15 face à une défense qui quand même qui a bien reculé, mais on voit que le Pays de Galles ils sont là. Donc 14-10, le capitaine des All Blacks, Reid. Il reprend ses blacks et à 32e minute, on voit un essai marqué par la 14 suite à un contre-rock dans les 22 gallois. 21-10 et bien sûr, les nouveaux Z, ils ont fait ce que les nouveaux Z font à la fin de la première mi-temps. Un deuxième essai de Ben Smith après un raffut de dingue. Il est 28-10 pour le mi-temps.
Alors, ce raffut, c'est vrai qu'il faut quand même le regarder. Hein. Ceux qui nous écoutent, là, faut absolument, si vous n'avez pas vu ce match, voyez juste au moins cet essai-là avec le raffut qui est... mais juste gigantesque. Et c'est vrai que là, le pauvre numéro 9 gallois, mais c'est quand même assez humiliant.
Donc le deuxième mi-temps a démarré exactement le même. Il fallait juste une ou deux minutes pour que le All Black Ryan Crotty marque après un pas super sympa de certains Sonny Boy Williams. C'était un match un peu raccourci pour un Patchell et aussi notre Alwyn Jones qui est parti en environ 50-60 minutes. Quand même, on voit que le Pays de Galles reste dans le match avec un essai de Josh Adams, son septième. Il est quand même leader de ce Coupe du Monde avec cet essai marqué.
Un essai d'avant hein, qui a rien à voir avec les essais des lignes qu'il met d'habitude. Hein. Il a été chercher le ballon dans un petit tas pour planter derrière la ligne.
Ouais, quand même important. Je pense qu'il y avait 19 ou 20 phases de jeu qui a vraiment montré cette côté borné, pas borné, c'est ça, mais borné, c'est bien ça, borné. De cette équipe galloise. ils voulaient pas finir avec que 10 points. Pour finir, un essai du numéro 10 All Black pour passer à 40-7. Un score final assez logique, mais sans honte pour les Gallois qui ont pu quand même livrer un match assez sympa à voir.
Oui, moi, ce que j'ai trouvé dans ce match, c'est que, assez vite, on a quand même compris que les Blacks allaient s'imposer. C'est vrai que 12-0 au bout de 10 minutes, un truc comme ça. Et quand ils commencent comme ça, les Blacks, tu les reprends pas. Et j'ai eu le sentiment quand même que presque les Gallois avaient pas envie de les battre, quoi. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment le rugby ont tellement souffert de voir les Blacks se faire marcher dessus comme ça en demi-finale de la Coupe du Monde par les Anglais, que en plus, aller leur faire perdre la petite finale, c'est un truc qui s'apparentait quasiment à de la lèse-majesté. Et ils ont voulu faire un beau match, les Gallois, et ils l'ont fait. Ils ont absolument pas à rougir. Mais grosso modo, il fallait que les Blacks gagnent ce match. Ils avaient plusieurs joueurs qui allaient arrêter, que ce soit Sonny Bill Williams, Kieran Reid et compagnie. Ils pouvaient pas finir sur une défaite. Et le parcours des Gallois est très, très honorable. Voilà. Comme tu dis, Alan Wynne-Jones, il sort à la 55e. Il a sa petite ovation personnelle. Tout le monde est content, c'est la fin, c'est les Blacks qui gagnent à la fin et la logique est respectée. C'est un peu ça que j'ai ressenti quand même.
Ouais, c'était la logique est respectée. Après, j'ai beaucoup pensé à toi, est-ce qu'on s'était dit sur les matchs, pas folklore, mais les matchs un peu plaisir, quoi. Et c'est vrai que les All Blacks dégageaient une décontraction pendant les innes. Enfin, ils étaient là pour finir en beauté, je pense, pour dire un bel au revoir à certaines légendes parmi eux qui arrêtaient. Mais c'est vrai qu'il y a eu, comme tu disais, le à la 20e là sur l'essai des Gallois, tu t'es dit bon peut-être ça va jouer encore, mais en fait on a surtout vu de leur part de la combativité et
ouais, de la fierté, c'est-à-dire ils étaient pas là pour en prendre 70
exactement,
non
plus. Ils étaient pas là pour baisser la tête.
On n'est pas les Namibiens, quoi. C'est un peu ça qu'ils disaient. Mais honnêtement, on n'a jamais douté que les Blacks avaient gagné,
oui,
ce match.
Oui, c'est ça, c'est très tôt, t'as vu, voilà. Que cette décontraction, elle venait aussi d'une maîtrise et tout. Je pense que j'ai aussi, dans cette idée de match du plaisir, c'est qu'il y a quand même un gros coaching quand avant l'heure de jeu, Steven Sen, il fait rentrer un peu tout le monde pour... Tu sens que tout le monde croque un peu à cette Coupe du Monde.
C'est l'esprit de ces matchs-là aussi, ça reste des matchs un peu gigouarico quand même. On s'en fout d'être 3e.
Exactement, il fait un peu croquer tous les copains et voilà quoi. Mais tu dis la logique est respectée parce que les All Blacks gagnent, et la logique est aussi respectée parce qu'on a vu une belle compétitivité de la preuve de la part de ces Gallois qui ont eu une Coupe du Monde un peu dure au niveau des blessures, un peu dure au niveau de leur banc. On l'a dit un peu à chaque semaine et du coup ça a été assez agréable à voir en effet.
J'étais étonné par l'effet que Nouvelle-Zélande soit tellement frais. Je trouvais vraiment frais déjà sur le terrain après d'être battu par les Anglais.
Oui, après c'était concassé par le.
Ouais, je trouvais un force mental bravo. Et j'ai trouvé le Gallois toujours assez dangereux, comme un vieux boxeur en fait. Tu le tapes dessus, mais il est toujours là, il est toujours debout, il essaie de prendre des points quand il peut, mais bon, c'était assez logique comme on l'a dit.
Ouais, il y a eu le seul truc qui m'a un peu surpris, c'est le peut-être c'était la décontraction, peut-être que c'était dû à la compatibilité, mais c'est vrai que sur le secteur de la touche, les All Blacks, ils avaient plus trop l'air d'y être. Après, c'est vrai qu'ils ont, quand tu vois que leurs avants se mettent à jouer comme des trois quarts là sur l'essai le premier essai là des All Blacks dont tu nous as parlé, c'est vrai que c'était un 8-4-1 étrange un peu.
Ce qui m'a plu, c'est que on a retrouvé les Blacks, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ils ont affiché leur domination, leur grande qualité technique, de jeu collectif. À un moment, ils sont tellement passés à côté de leur demi-finale que tu t'en prends à douter. Tu dis, mais merde, c'est peut-être plus les Blacks. Si tu vois le match là pour la troisième place, ça reste les Blacks. Ils sont complètement au-dessus. Et honnêtement, c'est 40-17, un peu les mains au du guidon quand même. Donc moi, je suis très content pour eux qu'ils finissent avec cette place là. Et il faut aussi savoir, je pense, que dans la culture néo-zélandaise, être All Black, ça signifie beaucoup pour les joueurs. Perdre, c'est quelque chose, surtout sur des matchs élimination directe en Coupe du Monde et compagnie, c'est quelque chose qui dévaste complètement le vestiaire et les âmes et les cœurs. Et perdre deux fois de suite, c'est juste quelque chose de pas envisageable.
Allez, bon, c'est le moment pour parler du final. Donc ce samedi matin, on a quand même eu le final Afrique du Sud contre l'Angleterre. Un match très attendu qui a démarré très vite, malheureusement par un KO de numéro 3 anglais, Sinclair. On a vu par contre l'Afrique du Sud tout de suite dans leur match, avec un défense vraiment attaquant qui a vraiment mis l'Angleterre en danger tout de suite. Beaucoup de pénalités, donc notamment je pense 4 dans les premières 10 minutes. Et après ces premières 10 minutes, on voit l'Afrique du Sud qui mène 3-0. On voit une équipe de l'Angleterre vraiment changer par rapport à la semaine dernière. Ils sont d'un coup faibles. On voit des passes un peu pourries. Ils subissent dans la mêlée, ils subissent dans les touches. Ils font des en avant, ils reculent sur des impacts. C'est pas la même équipe qu'on a vu il y a une semaine. Il fallait attendre presque 20 minutes avant que les Anglais arrivent dans les 22 Sudaf pour prendre 3 points. Il y a beaucoup de casses dans ce début de match, avec 3 hommes qui sont sortis par blessure. On voit petit à petit ce score. Bon, il ex-aequo à un certain moment 6-6, mais c'était après l'Angleterre a campé dans le 5 mètres de Sudaf pendant longtemps, mais ils n'ont pas réussi à marquer un essai.
Ah ouais.
Donc, en gros, à 12-6 à la mi-temps, on voit une équipe Afrique du Sud vraiment qui mène. Théo, la semaine dernière, tu as parlé d'un match de Klebar. Et je pense que le début de ce match, c'était vraiment ça aussi.
Oui, j'ai eu quelques retours d'ailleurs. Hein, ça a fait marrer les gens. Mais c'est vrai. C'est vrai, le rugby, c'est aussi un sport comme ça. Ça aussi, c'est rugby, comme disait Nick Mallett, qui a dû être content de voir son équipe défendre comme ça et s'acharner. Alors, moi, je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais je vois deux tournants vraiment principaux. C'est effectivement cette sortie de Sinclair très très tôt et remplacée par Dan Cole, qui s'est fait complètement croquer en mêlée. Enfin, c'est un peu indigne, pilier droit en finale de Coupe du Monde, se faire bouffer comme ça. Il a pas du tout tenu la route. C'est vrai que c'est un peu vieillissant. Ça interroge un peu sur le réservoir des Anglais à ce poste-là, parce que perdre son pilier, c'est un coup dur, clairement, mais le remplacer par un mec qui tient pas la route, c'est quand même très très bizarre.
Le mec en face s'appelle quand même The Beast, non?
On est d'accord, mais The Beast, il est quand même un peu sur la fin. Il a fait son match, mais il est quand même un peu sur la fin de carrière. Et Dan Cole, merde, normalement, enfin, c'est un mec, il devrait tenir son rang. Il a pas du tout tenu son rang. Et ensuite, je trouve que l'autre tournant, c'est effectivement cette séquence offensive finalement raté grâce à une défense héroïque. T'as 2 minutes sur la ligne des 5 mètres à la 30e. Si les Anglais marquent là, pour moi, ils passent devant, ouais, et derrière, ils doivent arriver à faire s'inverser la confiance. En fait, ils ont complètement perdu confiance parce qu'ils ont raté leur début de match, alors qu'on a bien vu la qualité de leur début de match contre les Néo-Zélandais en demi-finale, où ils avaient été extraordinaires. Ils avaient marqué d'entrée. Ils leur avaient dit, mais attendez, c'est nous les patrons. Voilà. Et là, ils ont rien dit du tout. Et au moment où ils ont eu la possibilité d'accélérer, et sur cette action-là, la 32e qui se finit avec un moment où Owen Farrell en position de demi-mêlée qui se fait reculer par je sais pas qui, ils étaient sur les 5 mètres, ils se retrouvent sur les 40 mètres à coup de plaquage et de défense. Là, simplement, les mecs, on leur ont dit en face, ben non, les tauliers, c'est nous. Voilà. Et pour moi, après cette action-là, je me suis dit, ils y sont pas trop dans leur tête, ils sont pas dans un grand jour, et en plus là, il y a des mecs en face qui leur disent vous ne passerez pas.
Charlie, est-ce que tu as vu d'autres choses pendant ce premier mi-temps?
Alors ouais, pour moi c'était, j'ai effectivement noté les deux faits de jeu là dont vous avez parlé. Pour moi c'était le plus progressif parce que tu avais cette sortie de Sinclair remplacée par Cole qui effectivement a morflé. Donc première étape, on voit qu'en mêlée ils ont du mal, ils subissent. Après vers la 10e 11e minute de jeu, on sent que l'ascendant, alors les passes étaient mal ajustées, il y avait un peu ils avaient du mal un peu les Anglais, mais t'as Maro Itoje qui repart faire son Maro Itoje, qui met les mains sur le ballon, qui commence à gratter, il se fait défoncer, mais défoncer. Bon, évidemment, il reste debout parce que c'est un guerrier, mais tu sens que voilà, il va pas pouvoir s'amuser comme la semaine dernière. Tu vois, déjà, c'est un autre signe. Pareil, à la 14e, 15e, Lowe's, qui était impérial la semaine d'avant, se fait contrer en touche. Tu sens qu'en fait, toutes les phases où ils avaient des certitudes, en fait, la semaine d'avant, ils se font bousculer, mais pour moi, c'était vraiment progressif. On voit que chaque fois qu'il y a une phase où ils vont pouvoir s'exprimer, ils se font niquer ou, et on arrive effectivement à la demi-heure de jeu, là où il reste 2-3 minutes, mais à se défoncer. C'est là où il y a 2 blessures en face. Là, c'est là où le deuxième ligne sort avec l'épaule en vrac, où le talonneur aussi sudaf sort. Enfin, c'est une séquence, mais d'une violence inouïe. Et ils repartent avec 3 points.
Et offensivement, là, pour moi, ils perdent vraiment le match là parce que ils montrent qu'ils sont dans un jour où ils n'ont pas les solutions. Et même Ben Youngs, plusieurs fois, il est tout près de la ligne. Combien de fois sur des séquences comme ça, il y a eu essai derrière côté anglais, mais ouais. À chaque fois, il marquait. Voilà.
Bah, et surtout que expliquer, je pense qu'il y a des équipes, si tu leur dis, poulet, en fait, ce qu'on va faire, c'est te rentrer dans la gueule, tu vas voir, ça va être dur. Je pense qu'il y en a qui peuvent trembler, mais toutes sauf les Sudaf, en fait. Les Sudaf, tu leur dis, gars, pendant 80 minutes, on va se rentrer dans la gueule. Je pense que eux, ils disent, bah, hey, super, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, quoi.
À l'image de mon petit Faf.
À l'image du petit Faf. Et du coup, oui, en effet, en première mi-temps, j'ai trouvé que les Anglais montaient des signes de faiblesse et que le score, au final, était pas flatteur pour eux, mais on consentait qu'ils avaient réussi à contenir un peu au score.
Ouais, c'était quand même, ça restait un match proche, mais comme toi, j'étais surpris de, je pense que c'est à ce moment-là où on a vu le numéro 8 anglais, Billy Vignapola, se faire retourner ouais, par un défense, et c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Bon, le match a redémarré un peu dans la même zone, 15-6 par un autre pénalité pour l'Afrique du Sud. Quand même, on va voir à 47e minute, on voit un certain remontée de fierté des Anglais. Il y a un pénalité par Farrell qui manque, qui rate d'ailleurs un autre par la suite. Donc 15-9, donc ça reste un match à 6 points. Et à 58 minutes, il y a un truc qui se passe. J'aimerais bien que Théo, tu m'expliques après. Il y avait une espèce de maul préparé, en fait. Il y avait un passe vers, je sais pas, un groupe de 8 mecs qui ont fait un truc que j'ai pas vu. Bon, pénalité, ok, c'est très bien. Mais l'Angleterre reste plus ou moins dans le match. C'est encore dans leur portée. Jusqu'à 66 minutes, il y a un très joli essai par un certain Mapimpe, si j'ai dit. Bien.
Mapimpi,
c'est son 6e essai du tournoi. Et finalement, un autre temps fort des Anglais, mais encore 0 points. Ça finit par 2 autres en avant des British dans ces dernières minutes. Et finalement, on voit 73 minutes, il y a Chelsea Colby qui fait un super essai individuel. Il dépose gentiment notre ennemi favori Owen Farrell pour marquer l'essai de la victoire. Ça finit 12 pour l'Angleterre, 32 pour l'Afrique du Sud.
Comme on dit, sur cet essai-là, il lui a laissé sa carte de visite. Hein. Ça fait mal. Hein. Cet essai-là, il est quand même hyper humiliant. Et on le voit d'ailleurs c'est symbolique, hein, que ce soit Farrell qui rate le plaquage. Et ensuite, tu vois, quand il va marquer, celui qui dépose et qui baisse la tête complètement sur son maillot ensanglanté, c'est symbolique, c'est Billy Vunipola qui essaye de venir défendre, mais il est à la rue aussi, il y arrive pas. Et là-dessus, ils savent que c'est perdu, quoi. Voilà. Là, ils savent que c'est terminé. Donc, c'est extrêmement dur pour eux. Effectivement, tout a basculé vraiment en termes de score après la 62e, parce que à la 62e, tu as encore que 18-12, ce qui est très peu. Enfin, je veux dire, il y a plein de matchs qui peuvent se retourner encore à ce stade-là. Mais moi, je trouvais que la défaite était déjà dans les yeux des Anglais. Ils étaient sortis du match complètement. Et d'ailleurs, Watson, là-dessus, à la 62e, se fait pénaliser par une faute ridicule où il vient bousculer un mec sous le ballon. Mais tu peux pas faire ça en finale de Coupe du Monde. C'est une faute de cadet. C'est invraisemblable de faire ça. Et là, pénalité. Et puis ensuite, voilà, on sait ce qui s'est passé. N'oublions pas que sur l'essai de Mapimpi, l'action que fait le 13, qui fait une passe quasiment aveugle, pour Mapimpi, elle est magnifique. Et Ben Youngs, il se demande encore où est le ballon. Il a rien vu. Il a rien compris. Et cet essai, il est quand même sublime. On peut pas enlever ça au Boc, qui font, voilà, un match ultra physique, etc. Et puis, c'est tombé de leur côté sur une capacité à faire des très jolies choses balle en main quand même. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match aussi, et pendant toute la Coupe du Monde, c'est le match d'André Pollard et de Allende, le premier centre Sudaf, qui font un match au centre du terrain quand même énorme, les deux. Et André Pollard, il arrive à Montpellier, ça va faire bobo en top 14. On en reparlera peut-être, les gars. Mais bonjour le joueur que c'est quand même.
Il y a des chances qu'on en reparle. Après, moi, j'avais aussi noté, je pense que le petit moment de regain là dont tu parles, où avec la pénalité de Farrell là au début, c'était surtout que les Anglais gagnent une mêlée quoi autour de la 50e, et on se dit, ah, il y a peut-être un.
Ouais, peut-être à ce moment-là, et c'était quasiment une des premières en fait où ils sont bien en mêlée. Mais t'es à l'heure de jeu déjà.
Exactement. Derrière, Curé gratte un ballon. Il y a la troisième ligne qui se réveille un peu. On se dit que ça a passé, mais en effet.
Que de ballons tombés. Ouais, c'est inhabituel. Dès le début,
les passes n'étaient pas du tout. Enfin, tu voyais qu'ils se trouvaient pas. C'était un peu.
J'allais dire une saloperie. On aurait dit des Français. Non, je déconne. Non, mais ils nous ont fait un truc à l'équipe de France. Bah, d'ailleurs, les Français, à chaque fois qu'ils ont battu les Blacks, ils ont perdu derrière, en Coupe du Monde. Hein. C'est une malédiction là-dessus. Hein.
Ouais, c'est ça.
Excuse-moi, c'est pas forcément vrai, parce qu'au moins avec les Français, on rêve pendant un mi-temps. On est dans les nuages, c'est super beau. Et après, c'est moche. Là, c'était moche pour l'Angleterre.
C'est vrai, sur cette Coupe du Monde, ils ont toujours été un peu bons au moins.
Mais, et du coup, alors plus. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ces deux essais qui sont beaux, mais surtout celui de Colbe. Oui, on peut pas dire que. Je pense qu'il y a de la grève de rein en demande du côté du Japon. Mais pour être tout à fait honnête, moi, pendant ce match, alors, j'ai complètement retourné ma veste, et c'est peut-être un peu l'histoire du traître qui a trahi pour rien, mais j'étais derrière les Anglais, moi, après le match qu'on avait vu la semaine dernière. J'avais très envie qu'ils gagnent, je les trouvais beaux, et du coup j'étais un peu en colère contre les Sudaf. J'ai été apaisé plus tard pour les images de la victoire dont on va parler, et pour plein d'autres raisons, parce qu'en vrai, c'était, en tant qu'avant, tu peux que apprécier le match qu'ils ont fait. C'est un match de, ils ont pas eu besoin des trois quarts, hein, sur ce match. C'était, à part à la fin, bon, histoire de les faire briller un peu, mais c'était vraiment un match d'avant. Mais c'est vrai que pendant le match, je me suis dit, putain, on a eu une Coupe du Monde 2015, qui était l'avènement du jeu. On a eu, pendant cette Coupe du Monde, beaucoup de jeux. On a eu les Japonais qui ont brillé par quelque chose de très construit, où ça partait. La semaine dernière, on s'est régalé. Et là, t'as les Sudaf, ils nous ramènent 15 ans en arrière, ils en ont rien à branler. Occupation, défonçage de gueule, et puis jeu au pied de temps en temps. Enfin, c'était vraiment, tu t'es dit merde. Et les Anglais derrière, tu te dis, il y a bien un moment, mais justement, autour de cette 50e, là, tu te dis, putain, ils vont se réveiller. Ah bah, ça y est, ils vont commencer à jouer. C'est pas encore un rugby de concassage qui va gagner. Bah, si. Bon, bah, il y avait cette petite déception, bah, quoi. Si. Pour être tout à fait honnête, bon, voilà, c'est beau derrière, c'est une belle victoire, c'est un beau match d'avant, ils y ont été ferraillés, ils ont été là chercher cette coupe, hein, y a aucun souci là-dessus. Mais pendant le match, j'étais un peu frustré.
Oui, alors moi je te rejoins là-dessus. J'ai plusieurs frustrations, d'autant que je comptais vraiment me la péter s'ils étaient champions du monde, vu que j'avais annoncé que c'était mes favoris. Donc après la demi-finale contre les Blacks, je me suis dit, putain, j'ai jamais été aussi près du buffet. Et puis là, rien, à 2 mètres du buffet, je me suis écroulé dedans, enfin surtout eux. Donc je suis quand même un peu déçu, et ils m'ont fait un coup de Trafalgar. Je les voyais encore très favoris avant ce match. Ils m'ont vraiment déçu. Quelque part, il faut aussi s'en réjouir. Ça reste la glorieuse incertitude du sport. C'est bien 15 mecs titulaires plus 7 ou 8 mecs sur le banc des deux côtés qui font le match. Et il est jamais écrit d'avance. Et ce que je pense, fondamentalement, c'est que les Anglais, après la démonstration qu'ils ont faite contre les Blacks, c'est incroyable, mais je pense qu'ils ont cru qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Et ils se sont dit, personne peut nous battre. On vient de rouler sur les mecs qui écrasent ce sport depuis 15 ans. Donc les Sudaf, ils ont beau être costauds, ils vont manger. Et là où j'en veux à Eddie Jones, alors que je l'ai loué comme un sorcier, mais je pense qu'il s'est complètement vautré sur cette semaine, c'est que pour rater une entame comme ça, ça veut dire que t'es pas dedans. Et surtout, sa composition, elle me surprend. Il remet la même équipe. Et je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il fallait remettre Owen Farrell en 10. Il fallait faire rentrer des remplaçants qui allaient jouer la finale parce qu'ils n'avaient pas joué les autres matchs en disant « c'est à 23, c'est le groupe des 30 et l'équipe des 23 qui doit gagner cette finale. C'est une nouvelle compétition. Il reste plus qu'un match. On repart de zéro. » Et je pense qu'il l'a pas fait. Il a dit, les mecs, vous êtes des papas, vous êtes les boss, vous avez terrassé les Blacks. Je me pose même pas de questions. Je remets les 15 mêmes. Erreur, Eddie. Grosse erreur. Désolé.
T'es aussi, si je peux, la semaine dernière, dans notre dernier podcast, on avait parlé de deux histoires différentes et que il y avait une histoire d'un homme, le coach Eddie Jones, qui était vraiment une très très belle histoire. Mais en fait, c'était face, maintenant que je pense, c'était face à une histoire d'une équipe dans le Sud, Afrique du Sud, dans l'équipe qui est complètement changée, cette équipe arc-en-ciel. Et en fait, finalement, dans les deux histoires, c'est l'histoire de l'équipe qui a gagné contre l'histoire d'un homme.
Oh.
Oui, peut-être. C'est vrai que on avait souligné d'ailleurs dès le début, hein, dans les matchs, dans les tout premiers matchs, les matchs de poule, etc. On avait dit que ils étaient à un moment de leur histoire où ils avaient un capitaine noir pour la première fois. C'est pas anodin, on l'a dit la dernière fois, mais faut le redire. Pour ce pays-là, c'est extrêmement significatif. Et d'ailleurs, il y a eu des scènes de liesse en Afrique du Sud, qui est un pays qui va très mal par ailleurs. Et on peut évidemment que se réjouir que le sport qu'on aime nous en plus, soit le véhicule d'une joie partagée entre des mecs qui oublient d'un seul coup qu'ils ont des tas de problèmes, du racisme latent à plein de trucs. Il y a d'ailleurs une sale histoire qui tourne au basque d'Edzebet, qui était à moitié chez les flics avant la Coupe du Monde parce qu'il avait insulté ou je sais pas quoi.
Il aurait
des insultes racistes à un mec dans la rue. Donc c'est un pays qui reste encore très marqué par ça. Donc évidemment, tout ce qui peut cimenter ce pays, c'est beau. Et d'ailleurs, Chelsea Nkolbi, c'est un métis. Et c'est un pays dans lequel il y a encore assez peu de métis. Il y a beaucoup de blacks, beaucoup de blancs. Mais c'est beau aussi qu'il y ait des métis qui soient aussi le signe de l'intégration, comme l'était d'ailleurs Brian Abana.
Sur le discours qui a été donné aux Anglais, qui peut-être Eddie Jones s'est trompé, peut-être aussi que les Anglais ont trop entendu le discours des instances, parce que je ne sais pas si vous avez entendu pendant la semaine, mais les Anglais auraient été la fédération anglaise aurait été dans une merde noire financièrement si les Anglais avaient gagné par rapport aux primes promises. Donc si ça se trouve, les Anglais fin défenseurs de leur reine, ils sont juste dit, bon les gars, on va pas ruiner la fédé quand même. On a fait notre finale la semaine dernière, on va la laisser tranquille. Je pense que c'est ça, ils ont entendu le mauvais discours. Hein,
c'est encore un coup de Boris Johnson.
C'est ça.
C'est vrai que, Charlie, tu disais à l'instant, et je te rejoins complètement, les Anglais, la vérité, c'est qu'ils ont joué leur finale en demi-finale. Voilà. Et d'ailleurs, c'était le match au sommet de cette Coupe du Monde. C'est ce qui rend ces compétitions aussi là parfois un peu imparfaites. C'est que moi, je crois quand même que, à part ce match raté, les Anglais auraient mérité, avec l'équipe et ce qu'ils ont montré et le fait de battre les Blacks comme ça, d'être sacrés champions du monde et meilleure équipe de cette coupe. Et faut quand même pas oublier que les Bocs, qui sont champions du monde, ont perdu contre les Blacks au premier tour. Alors que les Anglais leur ont foutu une raclée.
C'est les seuls champions du monde à avoir perdu un match, dans la compétition.
Voilà. Donc, il y a quelque chose d'un peu frustrant quand même dans cette victoire-là, même si elle ne souffre d'aucun commentaire négatif sur le match en lui-même qu'ils ont réussi en tout point. Et pour le coup, là, je pense que leur coach Erasmus, je le connais pas beaucoup, je sais juste qu'il avait été le coach du Munster, donc c'est un mec qui connaît bien le rugby européen aussi, qui connaît bien certainement la mentalité anglaise, etc. Il a dû trouver les mots, pour que ces mecs-là aient cherché les ressources et renversent les Anglais en les prenant à leur propre jeu, parce que effectivement les Anglais, eux, se sont troués complètement sur ce match, tout ce qu'on peut dire.
Bon les gars, on peut dire que ce Coupe du Monde est fini, malheureusement, c'est un peu triste, mais quand même, on a pas mal de awards et des choses à en parler. Juste rapidement, pour chacun de vous, on va dire Charlie d'abord, quel était ton bilan de ce Coupe du Monde?
Alors, un bilan global comme ça, moi je me suis régalé, il y a plein de trucs en vrac qui me viennent à l'idée, le parcours un peu... mieux qu'on ne l'espérait de la France, où je suis assez content. Les petites surprises qu'on a vues, l'Uruguay qui a battu les Fidji, c'était un beau moment avec notre petit German Kessler aussi qu'on a adoré. Il y a eu le parcours du Japon, évidemment, qui a été aussi au-delà de ce qu'on attendait, mais dans la manière surtout, dans l'engouement qu'ils ont porté, ça a été formidable. Et puis peut-être pour conclure un peu cette impression générale, mais j'ai sûrement oublié plein de trucs et cité des trucs, mais sur l'impression générale, il y avait aussi pour moi tout l'à côté, quoi. C'était vraiment une fête, vraiment. On l'a senti de la part de, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de, si, il y a les Uruguayens, apparemment, qui ont retourné un pub, mais sinon, il n'y a pas eu d'à côté, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'équipe qui a dégénéré, ou qui a mal parlé, ou qui s'est embrouillé en conférence de presse, ou qui a ruiné un hôtel, ou, enfin, ça a été que de la confrérie, c'était une très belle Coupe du Monde. Et, juste pardon, il y a eu les matchs annulés, où c'était le bémol, mais voilà.
Oui, moi, je commencerai par la fin. Moi, je ne suis toujours pas réconcilié avec World Rugby sur les matchs annulés, non délocalisés. Je ne leur pardonne pas qu'ils n'aient pas prévu de plan B pour ces matchs-là. Donc, après, ils ont certainement des bonnes raisons. Moi, je ne les ai pas lus. Je ne les trouve pas excusables. Et je trouve que c'est le seul point vraiment noir et inadmissible de cette compétition. Qui, à part ça, visiblement, les Japonais ont été des hôtes exceptionnels. Toutes les équipes disent qu'ils ont adoré vivre cette compétition là-bas. Je trouve que le rugby, du point de vue de l'image sur le comportement des hommes, que ce soit les à côté, mais que ce soit aussi très souvent les accolades, les aides d'honneur, le respect extrêmement sincère entre les joueurs, et ça se voit. Je trouve que là, on garde une spécificité quand même. Moi, j'aime bien le foot aussi. Parfois, il y a d'autres sports que je regarde avec évidemment plaisir. Mais on n'a pas basculé dans le sport business où toutes les valeurs sont à la poubelle qu'on voit dans d'autres sports. Et ça, j'apprécie beaucoup ça. À cet égard, je trouve que c'est très réussi. Ensuite, je suis content que les Blacks ne soient pas à nouveau champions du monde. Pas du tout contre les Blacks, mais parce que je pense que tout simplement, quand tu as une trop forte domination, tu perds de l'intérêt pour le sport en question. Et je trouve qu'il fallait pas qu'il soit trois fois champion d'affilée. J'aurais aimé que ce soit les Anglais. Et surtout, j'ai envie de prendre rendez-vous en 2023 parce que les Anglais qui sont évidemment vexés, piqués au vif d'avoir perdu là, faut pas les enterrer. Ils ont une équipe qui est très jeune. Faut pas oublier que leurs deux, troisième ligne, c'est des mecs qui ont 21-22 ans, donc ils n'auront que 25-26 ans à la Coupe du Monde en 2023. Bonne chance pour les faire déjouer et les prendre. Ils vont quand même encore être très bons. Et je pense qu'en 2023, où ce sera en France, nous, le pack de potes, on sera probablement à ce moment-là le podcast numéro un mondial en sport. et franchement, je pense qu'on va juste s'éclater. Donc c'est surtout une grosse envie de rendez-vous. Selon les premières estimations. Enfin, on va pas balancer tous les chiffres, mais là, c'est juste énorme.
C'est vrai qu'on a vraiment pris plaisir. Et c'est vrai qu'en fait, c'est dommage que c'est tous les quatre ans, parce que j'aimerais bien que ça se passe bientôt, cette prochaine Coupe du Monde. On a vu des belles choses de l'équipe de France. Je suis content de, déjà, je pense qu'on a fini sur plutôt une bonne note, même si le match était pas superbe pour la France. Déjà, il y a plein de trucs dans la presse qui disent, tiens, regarde l'équipe qu'on va avoir en 2023, et on se projette en France. Et ça c'est toujours une bonne chose. Donc, c'est un point positif, je pense, pour la France. Bon, encore, Charlie, c'était super de revenir sur tout ça. Merci pour ton travail de edit. C'était vraiment un bien sympa de ta part.
C'est un vrai régal de se replonger dans cette aventure. Ça ne me donne que plus faim pour la Coupe du Monde à venir, parce que ça me rappelle toutes les émotions qu'on a vécues il y a 4 ans et qu'on va revivre, je pense, en mieux, puisqu'on ira plus loin et que c'est chez nous. Et j'ai vraiment très hâte que cette Coupe du Monde 2023 commence, 8 septembre.
Ouais, exactement. Allez, tout le monde, n'hésitez pas à partager ça avec vos copains rugby, fans de rugby ou membres de famille. Si vous avez un oncle, un cousin, une tante qui aime bien le rugby, on voit les ce lien. et on se voit très bientôt parce que normalement la semaine prochaine, on va commencer avec nos différents épisodes où on va attaquer chaque poule pour parler en détail par rapport à les cinq équipes dans chaque poule. Donc normalement avec un invité surprise la semaine prochaine. Allez, à très bientôt à tout le monde. À très bientôt à toi. Mon cher Charlie.
Salut mon ticket, salut les potes du pack.